prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, de l'ennui à l'aventure.
Bonjour à tous, saluons tous ceux qui nous rejoignent ce matin et que nous puissions vraiment être bénis par le Seigneur, sa présence, sa parole. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Ésaïe. J'ai dit le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43. Et un simple verset qui fera l'objet de notre réflexion, le verset 22, tout simplement, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Israël, et voici ce que nous avons devant nos yeux. « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Constatation faite par le Seigneur en regardant son peuple, tu t'es lassé de moi. Dieu peut dire, Dieu disait, mon peuple est là. Mon peuple est fatigué. En d'autres termes, mon peuple s'ennuie. Il s'ennuie de ma présence. Il s'ennuie de mes paroles. Il s'ennuie de mes dons. Il s'ennuie de ma bonté. Comme si moi, je parle toujours pour Dieu, comme si tout en moi était découvert et Israël me regarde maintenant comme un Dieu épuisé et un Dieu qui est vide. C'est une drôle d'interpellation que nous avons ce matin. Constatation, regard de Dieu, et la manière dont Israël considère celui qui l'a sauvé. J'aimerais rapporter une petite anecdote. Elle vient d'Augustin, vous savez, l'apologiste des premiers temps du christianisme. On rapporte cette histoire un jour. Augustin se promenait sur le rivage où il a vu des enfants qui jouaient, tout simplement, comme ça se fait toujours. Et les enfants puisaient de l'eau dans l'océan et il l'a rejeté dans un trou qu'ils avaient creusé dans le sable. Alors il a posé la question, mais que faites-vous ? Il s'est adressé donc à ses enfants, mais qu'est-ce que vous faites ? A questionné Augustin. Et les enfants, avec toute leur innocence, ont répondu ceci. Eh bien, nous vidons la mer pour savoir ce qu'il y a au fond. Vous connaissez certainement. Mais c'est un petit peu le reflet de, quelque part, les attitudes des hommes. Je parlerai ce matin l'ennui du meilleur. Parce qu'en tant que chrétien, on peut dire que quand même, le meilleur, nous l'avons en Dieu. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Et ça nous rappelle une parole que j'ai souvent citée dans le psaume 68, où c'est Dieu qui parle aussi à Israël, quand il est dit ces choses, « Vous qui reposez dans les étables, alors que les ailes de la colombe sont parées d'or et d'argent. » Est-ce que quelquefois nous pourrions peut-être pas donner la même chose sur l'Église, sur nos Églises, l'Église d'aujourd'hui, où les enfants de Dieu sont ennuyés du meilleur, s'ennuient du meilleur. Alors, on va parler de l'ennui, mais on va parler d'autre chose. L'ennui, dans son étymologie, a un sens très fort. Alors j'espère que vous ne serez pas choqués, mais c'est ce que j'ai découvert dans ma recherche. Un sens très fort, être un objet de haine. Un objet de où véritablement il y a comme quelque part comme un dégoût. On n'en veut plus. On est blasé. On ne sait plus. D'où découle la pensée de lassitude, c'est un petit peu adouci, une pensée de lassitude, une pensée de quelque part d'embarras, de désagrément, on ne sait plus, on est contrarié, une pensée de fatigue produite par un désœuvrement. Voilà. Et le manque finalement d'intérêt. On a perdu l'intérêt des choses les meilleures. Une forme de monotonie qui s'est installée. Alors c'est vrai sur la personne de Dieu, ça peut être sur d'autres personnes que nous connaissons, peut-être même des proches, ça peut être également sur une chose, et même du Seigneur, et de tout ce qui a trait au divin. On pourrait peut-être penser qu'à ce moment-là, l'Église, comme Israël, est un peuple et un monde blasé. C'est véritablement ce que nous comprenons et la caractéristique de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut souligner que nous sommes dans un monde de précipitation, de consommation, de distraction et de tout ce que voudrait Ancien. Mais l'ennui des gens n'a jamais été aussi réel parce qu'on s'ennuie partout. Voilà, les gens bougent. On est ici, on est là, on fait ceci, on fait cela, on goûte, on en est dans cette situation. Ce qui trahit probablement une profonde insatisfaction, et si on a la réponse à l'ennui de la Samaritaine, ça n'a pas changé aujourd'hui. Alors c'est vrai que cela crée une insatisfaction et on imagine, et les hommes imaginent, et n'ont pas tari d'imagination sur des choses qui sont inadéquates. Et hors de propos pour essayer de faire sortir les gens de l'ennui. On essaie de les distraire. On essaie d'inventer toutes sortes de choses nouvelles. Nous entendions il y a quelque temps une professeure d'anglais en classe de 6e qui nous disait « Mais moi je ne sais plus quoi faire pour essayer de capter l'attention de mes élèves. Il faut toujours quelque chose de nouveau. » Alors que pendant des décennies, on nous a enseigné des choses, et tout simplement. Mais il faut capter, il faut créer toujours quelque chose de nouveau. On est dans ce monde-là. Et peut-être que l'Église, qui n'échappe pas à ce genre de phénomène, est aussi, il faut toujours inventer. Alors, on a quelqu'un qui est un divin inventeur, alors faut lui faire confiance. Parce que lui, il sait comment faire avec les hommes. Parce que des temps, des générations, des civilisations... Il en connaît. Mais ça, c'est notre temps, c'est notre siècle. Oui, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'ennui, décrit par un proverbe profane, je le cite, il est dit ceci, « L'ennui a fait plus de joueurs que la cupidité. L'ennui a fait plus d'ivrognes que la soif. » L'ennui a fait plus de suicides que le désespoir. Parce que derrière le phénomène du jeu, derrière le phénomène de l'ivrognerie ou de la boisson, derrière le phénomène du suicide, il y a un vide. Il y a quelque chose d'océanique, de pacifique, au sens de la largeur, naturellement. Alors c'est sûr que tout ce que les hommes essaient d'apporter comme emplate, comme pansement, comme pour colmater un peu les brèches du navire, c'est dérisoire. Parce que le problème, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dehors, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Alors, nous allons appeler les choses par leur nom. Derrière un péché, derrière une chute, une passion, une addiction, il y a au fond du cœur de l'homme, et je dirais sans qu'il s'en doute, un mal qui s'appelle la lassitude ou l'ennui. Et on va expliquer les choses. Et toute la question est comment va-t-on se désennuyer ? De passer d'un état d'ennui à un état où on va trouver la liberté, l'affranchissement, se désennuyer. C'est-à-dire, tout simplement, trouver ou retrouver le dynamisme, le sens et la force de vivre. Et ça, ça nous concerne. Il y a tant de langueur dans nos milieux. Tant de langueur parmi les enfants de Dieu. On vient aux réunions parce qu'il faut venir aux réunions. Non, il ne faut pas venir aux réunions. Je viens rencontrer Dieu parce que j'ai faim et j'ai soif de lui. Ça change tout, hein? Il y a plusieurs manières de pallier à l'ennui. Même dans la dimension spirituelle. Alors c'est peut-être un paradoxe, mais pour échapper à l'ennui, d'abord il faut commencer à se reposer. Parce que quand on est trop fatigué, ça ne marche plus. Quelquefois, se reposer, ça fait du bien. C'est, pour d'autres, ça sera se bourrer de vitamines et de fortifiants. Et les vitamines pseudo-spirituelles, il y en a, hein, faut pas se faire d'illusions. Certains recourront aux stupéfiants dans ce genre de paradis artificiel dont nous avons si souvent entendu parler. D'autres prendront des barbituriques parce que ça aide à oublier et on oublie son ennui. D'autres se saisiront d'excitants, qu'ils soient alimentaires, psychologiques, qu'ils soient auditifs ou visuels. D'autres également, se donneront des distractions fortes, impressives. Et puis d'autres, je parle des chrétiens cette fois-ci, aux miraculeux, aux sensationnels, selon la nature de chacun. Pour les réalistes ou pour les mystiques. Mais, quoi qu'il en soit, la lassitude, est toujours un désert. Et un désert, on s'ennuie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est le vide. Et un désert, c'est la monotonie. Perte de vue. Et cela fragilise notre raison d'être. Je dis bien notre raison d'être. Ou notre raison tout court, parce qu'après on ne raisonne plus pareil. Je m'ennuie. Je l'ai souvent entendu, hein. Je l'ai entendu de bien des gens à l'extérieur, je l'entends aussi parfois d'enfants de Dieu. Certains, en saluant, disent « Oh, je m'ennuie. » Ça vous est jamais arrivé ? « Je m'ennuie. » Ben oui, ma pauvre sœur, mon pauvre frère. Surtout que ça revient toujours. Oui, ça fragilise notre raison d'être, parce que nous sommes pour une autre dimension, pour une autre vie. Et on a le Seigneur. On a le Seigneur. Eh, c'est pas toujours facile, mais on a le Seigneur. Alors, Dieu dit à Israël, « Tu t'es lassé de moi. » C'est Dieu qui le dit. « Sortir de l'ennui. » Une image simple sur une route bien droite, quand bien même cette route est très belle, mais parce qu'elle est longue, vous savez, c'est un peu l'image de la vie, hein, parce qu'elle est très longue cette route, parfois s'arrêter pour emprunter quelques chemins de traverse ombragés, et où il y a une petite variété, c'est une invitation agréable. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous sortez qu'aux bretelles. Mais sur une nationale, c'est un peu différent. Quelquefois, on a envie de voir un petit peu ce qu'il y a de droite et de gauche. Voilà, c'est tout simplement l'image. Et vous savez que, on va arriver maintenant à autre chose, c'est que l'antidote à l'ennui s'appelle l'aventure. Et je voudrais vous parler d'aventure. L'aventure. L'aventure, parlons-en, du latin « aventura ». Les choses qui doivent, et qui quelque part peuvent nous intéresser pour qu'elles arrivent. Enfin, je ne sais pas si elles arriveront ou pas, mais ça peut être ce sens que l'on peut donner. Ou encore, dans la signification du mot aventure, arriver par hasard. Ouais, comme ça, ça vous tombe sur la tête, et puis bon. Ou idée d'entreprise hasardeuse. Voilà. Pour elle, définition. Une recherche du nouveau. Qui sort de l'ordinaire, on pourra parler sur le plan sentimental de de liaison passagère. Parce que ça va dans tous les domaines. Hein. Comprenez ce que je veux dire. Le grand maître de l'Angleterre du XVIIe siècle, qui s'appelait Olivier Cromwell, a écrit ceci sur l'aventure. « On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. » Eh oui, ça vous est arrivé de vous promener. On ne sait pas où on va, on part comme ça, on se promène. Alors on se dit au bout d'un certain temps, il faut revenir. Et quand on a vu les heures de route qu'on a fait, on se dit « Ouh là là, ça va être, la fatigue va nous prendre à ce moment-là. » Et c'est vrai, il a raison. Hein. Savoir où l'on va. Je suis toujours sur le domaine, je m'en écarte pas, de l'ennui. Hein. Savoir où l'on va. Et quelquefois, on peut le payer cher pour savoir où l'on va. Mais bon, ça fait partie aussi de l'aventure. Et ça fait partie des leçons qui peuvent nous être données en contrepartie. Mais la vie, en elle-même, n'est-elle pas déjà une aventure? La vie toute simple. La vie humaine, la vie naturelle. Alors, imaginez-vous la vie avec le Seigneur. On l'a vu tout à l'heure. Dieu disait, mais d'Israël, mais ils n'ont plus rien à trouver en moi. Et moi, je suis une source. Une source d'eau vive, comme nous rapporte Jérémie, on l'a vu vendredi soir, naturellement. Alors, la vie est déjà une aventure dont Jésus pose les limites de notre curiosité de savoir. Et vous le savez bien, parce que dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit, mais et pourquoi vous inquiétez du lendemain? Puisque chaque jour suffit à lui-même. Mais quelquefois, on voudrait un petit peu pousser les choses. Emballer le moteur, on pourrait s'exprimer ainsi. Jésus pose les limites. Voilà. Or, l'aventure avec Dieu consiste précisément à ne pas savoir. Ben vous allez me dire, mais j'ai la Bible, j'ai tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Saint-Esprit, il y a les révélations. Attendez, laissez-moi, je vais aller un peu plus loin. Ça consiste à ne pas savoir pour lui le croire dans ce qu'il sait, à ma place. Et ça s'appelle la foi. Seigneur, j'ai confiance en toi, parce qu'un jour je t'ai donné ma vie. Et moi, je suis convaincu que le programme de ma vie, depuis le jour où je lui ai donné mon cœur, il y a bientôt 40 ans, jusqu'à maintenant et après, mais il a déjà le programme. Alors, si lui le sait, je lui fais confiance. Ça s'appelle la foi. Et les aventures, on en a eu avec le Seigneur, hein. Et j'espère bien qu'on en aura encore. Et elles sont toujours exaltantes. Elles sont parfois déconcertantes. On se dit, Seigneur, mais pourquoi? Moi qui voulais aller en Israël et je voulais rentrer dans le pays de Canaan, tu m'as fait descendre par le Sinaï. Ah, c'est complètement le sens inverse. Mais oui, mais le Seigneur sait très bien ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Alors je lui fais confiance. Et ça, c'est important. L'aventure. Quelques observations générales applicables aussi à l'expérience de la foi. Et ce qui se passe également dans notre vie indifférente, hein, tous les jours. Toutes les entreprises des hommes, c'est une réflexion, commencent souvent dans la fièvre d'une passion, dans un domaine ou dans un autre, hein, parsemées de difficultés et d'improvisation. Je dis bien toutes les entreprises en sens général. Peu à peu, ce que le pionnier a mis en place, eh bien tout cela va s'organiser. Ça va se faire au fil du temps. Ça va se standardiser. Ça va se banaliser et arrive un temps où finalement la routine va prendre le dessus. Vous vous souvenez de votre conversion? Tout feu, tout flamme. Dans les grandes aventures professionnelles, dans ce que les gens ont entrepris, souvent une révélation. Ah, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Puis au bout d'un certain temps, vous allez rentrer dedans, vous allez être dedans. Quelquefois, on va se retrouver renfermé dedans. Quand vous allez vouloir vous en sortir, vous ne pouvez plus. C'est aussi un aspect des choses. Au début, plein d'aventures se succèdent. Et puis après, il va y avoir un phénomène que nous appelons et que nous connaissons bien, c'est l'habitude. Et de l'habitude peut naître l'ennui. S'il n'y a pas un élément dont nous allons voir tout à l'heure, qui s'appelle le renouvellement. Ouais, il y a un recyclage, un moment ou un autre. Le processus est invariablement le même au départ une découverte explosive, puissante, plein d'entrain qui procure un attrait quasi magique. Excusez-moi, le mot, vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'est ça, hein, dans la réception de nos consciences, de nos cœurs, de nos vies. Ouah, Seigneur, c'est extraordinaire ce que je viens de découvrir. Et il faut ça, hein, dans l'impulsion de la vie chrétienne pour commencer. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et quelques temps après, le rythme se ralentit. Et puis parfois, il arrive à s'essouffler. Eh oui, il ne faut pas que ça cale, c'est tout. C'est tout. Tous les découvreurs et les pionniers cherchent à défendre et à conserver le trésor de vérité et d'émotion qui les a fait un jour palpiter. C'est vrai pour les chrétiens, mais c'est vrai pour toutes les choses de la vie. Toujours un enthousiasme. Et si vous connaissez la signification grecque du mot enthousiasme, vous allez comprendre. Ça nous fait palpiter. Merci Seigneur, c'est extraordinaire, c'est une véritable révolution que tu as mis dans ma vie. C'est le phénomène des réveils, car l'Église n'échappe pas à la pesanteur de l'ennui, à la monotonie, et pour s'en dégager et secouer l'inertie, la tentation est grande, je dis bien et je répète, la tentation est grande de recourir à quelques aventures dont il s'agit avant tout d'en vérifier la validité. Et là, on touche quelque chose que nous connaissons bien dans nos églises. Vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin ? Si vous ne la connaissez pas, je vous la raconterai après le culte. Vous verrez, c'est beau. C'est pathétique. Ça vous tire les larmes des yeux. Ouais. Vérifiez la validité. Parce que ça peut nous apparaître bien, beau, bon, ça peut nous apparaître divin, ça peut nous apparaître spirituel, mais vérifiez donc quand même d'où ça vient. L'instinct d'aventure est inné chez l'homme, enfin dans la plupart. Hein. Il y a des gens qui sont coincés dans leur fauteuil, ils disent « moi, je regarde ni à droite ni à gauche, je ne bouge pas, hein. J'attends que le Seigneur vienne me chercher et je reste dans mon fauteuil ». Bon, c'est une façon de penser, mais ce n'est pas la vie. Donc c'est inné chez l'homme, avons-nous dit, besoin de s'évader des réalités contraignantes de son quotidien. Et c'est vrai que la vie, elle n'est pas toujours facile. Là, c'est la rentrée, on reprend tous un petit peu les... Comme on dit, on va mettre, prendre les rênes. Et on se dit, ouais, c'est pas évident, et c'est tuant même. Alors, les plus timorés par rapport à la question de l'aventure vont s'offrir sans risque des aventures par procuration, tels que le rêve, tels que le cinéma, la lecture. Un chrétien désireux et sincère se tournera peut-être vers eh bien, tout simplement une littérature biographique ou missionnaire ou autre chose. Alors s'il ose, là où il se trouve, le danger sera de vouloir reproduire ce qu'il a lu, ce qu'il a vu, hors contexte du temps et des conditions voulues par Dieu. Et il se croira missionnaire, peut-être là, ici à Saint-Nazaire ou autre part, ou s'il a été faire un petit tour dans le Nouveau Monde, il a vu des choses, ça c'est sûr que l'on voit des choses. Il y en a même qui veulent brûler le Coran. Et puis, toutes sortes d'événements. Alors on se dit, il faut que ça se passe aussi chez nous. Alors, ça c'est... Et on essaiera de reproduire, on essaiera de faire de toute force, quitte à quelquefois bousculer la conscience des autres. Et on essaiera de faire rentrer finalement, eh bien là, le nouveau concept. Bon, ce sont des choses qui se voient, avec des résultats que l'on connaît quelquefois, ça marche ou ça ne marche pas. Dans toute aventure, je continue, c'est le premier pas qui coûte. Vous savez, Abraham, quand il a entendu Dieu lui dire, « Va, quitte ton pays, ta maison de ton père, et va dans le chemin, le pays que je te montrerai », la première chose qui était la plus difficile pour lui, c'est de faire le premier pas. Après, quand il en a fait un premier, il en a fait un deuxième. Et puis après, il a fait des kilomètres comme ça. Hein. Il a fait des kilomètres jusqu'à arriver au pays de Canaan. Enfin, à Sichem, là, sous les chaînes de Mamré. Et oui, premier pas qui compte. Sortir de ses habitudes de pensée, des conventions admises, s'engager, couper les ponts quelquefois. C'est ce qu'a fait Abraham, hein. Jusqu'à éclipser toute réflexion critique, bonne ou mauvaise, Alors Abraham, je tiens à le dire, il l'a fait dans le bon sens, il l'a fait avec Dieu, parce que Dieu l'avait appelé. Mais il y en a beaucoup qui font ça sans Dieu. L'aventure. Seigneur, je voudrais retrouver tout l'enthousiasme quand je me suis converti, quand j'avais 18 et 20 ans. Hein. Bon, c'est bien, hein, c'est sûr, hein, formidable. Mais le temps a passé, et puis il y a bien des choses qui... Alors, c'est bon en soi, mais attention, attention, parce que il faut aussi réfléchir. Alors à ce moment-là, celui qui part comme ça, l'aventure va le prendre, et elle va devenir passion, il va s'enflammer. D'un seul coup, il était comme le lumigon qui fume, il va partir, il va s'enflammer, la passion va être là, et il va se retrouver prisonnier de libre qu'il était, parce qu'il s'est trompé, tout simplement. Et finalement, eh bien, il ne s'ennuie plus. Ah oui, il ne s'ennuie plus pour un temps. Mais il est captif. Il s'est fait renfermer dans un piège. Et vous savez, il y en a un qui connaît bien un petit peu toutes nos tendances, qui connaît bien nos faiblesses, qui connaît bien un petit peu là où il peut nous attraper avec son appât, hein, avec son amorce. Et malheureusement, il faut bien quand même le reconnaître, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont entendu le chant des sirènes. Parce que les sirènes, je ne sais pas si elles chantent des cantiques. Mais toujours est-il que il y en a qui sont partis sur d'autres eaux, mais qui ont fait naufrage aussi. On a souvent présenté la passion des choses de la terre comme mauvaise. Et on a dit le contraire, on a présenté la passion de Dieu comme bonne. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, mes frères et sœurs. Non, non. La parole de Dieu nous met en garde qu'une aventure spirituelle peut devenir mysticisme, illuminisme, illusion. Et à ce titre, Paul parle de quelqu'un, quand il écrit dans une de ses épîtres, qui vit une aventure passionnelle, ce que j'appellerais de haut vol, qu'il désignera sous le nom de culte des anges. Vous avez entendu parler de ça ? Bah écoutez, dans Colossiens, il nous en est parlé, ça, hein, et avec tous les avertissements de toutes ces philosophies qui courent de droite et de gauche, et philosophies, théologies pseudo-chrétiennes, si je me permets de l'ajouter, dans 2 Colossiens. Qu'est-ce qu'il nous est parlé précisément ? On va le découvrir tout de suite. Alors, il nous est dit, au verset 18 et 23, il nous est parlé donc de cette question 18, « Que personne sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse à son prix, à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est en fait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » On a vu partir des frères et des sœurs en aventure avec ça, hein ? Culte des anges. Non, le culte que nous connaissons, c'est le culte rendu à Dieu par le nom de Jésus-Christ, non ? Me semble-t-il. Et le verset 23 ? Ils ont en vérité, c'est là peut-être l'aspect le plus séduisant, et c'est ce qui permet d'avoir l'accroche. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, le moi, l'humain, le naturel. Et il n'y a rien de spirituel dans cette affaire. Rien de spirituel. Notre propos n'a pas pour but de condamner l'aventure en tant que telle. Car des aventures, ou de l'aventure humaine, des aventures humaines sont nées des progrès et des avancées de la civilisation, même dans le domaine du christianisme. Ouais. Dieu fait avancer les choses. Il le fait avancer par son Église, mais il peut le faire avancer aussi par l'extérieur. Les grandes idées qui vont enthousiasmer les cœurs et les consciences, qui ont donné, c'est vrai, le côté négatif qui est la révolution. Mais quelquefois, il y a des révolutions salutaires. Hein. Jésus, moi, je suis toujours admiratif parce que Jésus était certainement le plus grand de tous les révolutionnaires de la Terre. Ah, il a bougé les choses. Il faut se mettre un peu dans le contexte de son temps. Hein. Cependant, une bonne aventure restera une expérience exaltante et salutaire. Une mauvaise aventure se révélera à terme une mésaventure. On emploie ce mot une mésaventure qui conduit fréquemment à la désillusion, à la dépression et à l'épuisement moral et spirituel. Et ce n'est pas faute de la part des pasteurs de prévenir, mais même quelquefois quand vous prévenez, les gens le font quand même. Donc, retour à la case départ. Et quand les gens tombent ensuite dans la désillusion, dans la déception, dans toutes sortes de choses semblables, ils retournent à la case départ, l'ennui. Et là, ils ont un contentieux à régler parce qu'ils se disent « Mais par où je suis passé ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour arriver dans cet état-là » Et ils s'ennuient encore deux fois plus. C'est terrible, hein ? Quel subterfuge de l'adversaire pour faire tourner les gens en rond. Pour nous, chrétiens, notre vie spirituelle et notre salut ne se fondent pas sur l'expérience, entendez bien, découverte et aventure seulement, je dis bien seulement, mais sur le fondement de la parole de Dieu. C'est elle qui va nous donner le juger, qui va nous donner l'intelligence spirituelle, pas notre intelligence, qui va nous donner la sagesse de juger, d'apprécier la qualité des choses, la validité des choses. Donc, c'est sur le fondement de la parole de Dieu à laquelle nous devons foi et obéissance. C'est pas parce que j'ai fait une expérience que finalement c'est oui et amen. Parce qu'il y a tellement de contrefaçons, tellement de pseudos, tellement de choses. Vous connaissez la publicité, hein? Canada Dry. Enfin, c'est vieux, ça. Ça, c'est très vieux. Et je crois que quand l'apôtre Paul nous dit ceci, l'apôtre Jean, pardon, nous dit ceci au chapitre 4, verset 1er, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ben, je crois que plus que jamais, s'il y a une chose, et je le disais encore hier à quelqu'un, je disais, mais plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu nous donne le discernement. Croyez pas ? Eh oui. Alors, nous devons à la parole de Dieu foi et obéissance, avec, bien entendu, avec ou sans miracle. Il y a des miracles qui sont authentiques, qui viennent du Seigneur. Mais il y en a un qui sait faire la même chose. Hein. Et l'apôtre Paul, décidément, je me trompe à chaque fois aujourd'hui. Ah, vous me troublez. Hein. C'est Jésus qui dira ça. Comment j'ai pu oublier une chose pareille? Si vous ne voyez les miracles et les prodiges que je fais, vous ne croyez pas. C'est Jésus qui dit cette parole. Est-ce que l'on doit marcher forcément? Moi, je bénis le Seigneur de ce qu'il est un Dieu du surnaturel, du miraculeux, des choses extraordinaires et formidables, et nous soupirons après la grâce du Seigneur dans ce domaine. Mais une chose qui est certaine, faisons attention, ouvrons l'œil, soyons attentifs. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui peut bien faire? C'est un petit peu péjoratif, mais qu'est-ce qui peut bien faire que je décolle spirituellement? Même si je suis un chrétien modéré, sérieux et réfléchi. Est-ce que je veux échapper à la peur? Est-ce que je veux échapper à la lassitude? Est-ce que c'est le poids des habitudes? La répétition des mêmes choses? Vous savez qu'à l'ennui, il y a une alternative. Soit c'est la somnolence, je m'ennuie, je dors. Ou alors, je m'ennuie, et alors à ce moment-là, je vais me réveiller, mais je vais aller à l'extrême. Je vais tellement être réveillé que je ne vais même plus endormir. Surexcité, et je vais marcher avec des excitants. Ben, vous savez, le Seigneur ne nous a pas demandé de courir, il nous a demandé de marcher, marcher dans l'esprit. Alors ceux qui veulent courir, ben, ils courent, mais bon, moi je ne suis pas en tous les cas. C'est pas grave. Si l'occasion d'une aventure inédite se présente, je parle pour moi, me voilà tout à coup secoué, bouleversé, réveillé, enfin quelque chose de vraiment nouveau dans ma vie, ça vient à moi. Alors à ce moment-là, je me réjouis parce que ça va rompre la monotonie. J'éprouve une sorte d'exaltation, voire un sentiment de rajeunissement. Ouais, il y a des gens qui vivent ça, ils rajeunissent. Vous savez, une aventure extra-conjugale, c'est ce qui se passe. Il y a un monsieur d'un certain âge qui, à un moment donné, se retrouve un jeune premier. Enfin, un jeune premier qui va risque de revenir quand même à sa place de départ. Voilà. Alors il se fait teindre les cheveux, etc., etc. Costume moulé. Enfin bon, c'est simplement une petite... mais vous avez compris ce que ça veut dire. Voilà. Et puis dans bien d'autres domaines, c'est la même chose. Eh oui, parce que ça fait du bien quelque part, ça. Donner un ballon d'oxygène. Alors c'est vrai que ça nous rappelle peut-être quelques belles expériences de débutant que j'étais, en somme. Un renouveau d'énergie, et on en a besoin. Voilà. Et on n'est plus dans les allures de la marche, mais là, on fonce, on court. Et puis rien ne compte autour de nous. C'est le problème, c'est le phénomène de la passion. La passion aveugle. Et tout est beau, tout est bien, tout est formidable, jusqu'au jour où on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'on s'est écrasé le nez contre une porte. Parce qu'elle était fermée, on pensait qu'elle était ouverte. Ça fait mal. C'est les urgences. Voilà. Et on se dit, je suis en train de rattraper le temps perdu, parce que c'est la notion de temps qui est pathétique chez l'homme. Vous savez, la vie, ça passe vite quand même. Et quand on regarde derrière ça, on se dit, oh là là, ça vous donne un peu le vertige en disant, mais les enfants, les petits-enfants, et ceci et cela, et je suis devenu vieux. Non, vous le dites, on l'a pensé. Et à un moment donné, on est pris d'une fringale, enfin, on est pris d'une frénésie en disant, il faut que je rattrape à tout prix le temps perdu. Alors là, pour rattraper le temps perdu, on fait n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Et même chez les chrétiens, on l'a vu. Mais voilà. L'important n'est pas l'aventure toujours vivifiante. Écoutez bien. L'important n'est pas toujours l'aventure, même si elle est exaltante, vivifiante, qu'elle vous transporte là, je ne sais plus sur quelle autre planète. Mais l'important, je le répète, c'est sa valeur. Quelle valeur a cette aventure? Quel est son fruit? Qu'est-ce que ça va produire? Son aboutissement, son implication auprès des autres qui sont autour de moi, y compris ma famille et y compris également mes frères et mes sœurs dans l'église dans laquelle je suis. C'est ça les vraies questions. Telle aventure se termine bien, telle autre finit en catastrophe. Et on voit la différence. On voit la différence. Et toute la cause de cela, c'est l'ennui à l'origine. Je m'ennuie, je cherche quelque chose. Regardez les gens autour de nous. Ils n'ont plus une minute à eux. Ils ont des familles. Enfin, ils ont une famille, excusez-moi. Bon, ben, peut-être que maintenant, on peut parler de famille. Mais toujours est-il qu'ils ont une famille. Ils ont des emplois de droite et de gauche. Monsieur, madame, et puis les enfants et ceci et cela. Et ils ne trouvent pas le temps de vraiment pour eux. Ou le temps pour Dieu. On court de droite et de gauche, on a des moyens, on peut se déplacer maintenant à la vitesse des étoiles. Et ceci et cela. Moi, devant chez moi, j'ai deux grandes entreprises de gin tonic. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme cela. C'est plein, continuellement. Et je me dis, les gens, ils arrivent du travail, ils vont faire ceci et cela. Et bon, bah, s'ils veulent ramer, ils rament. Moi, c'est pas mon problème. Mais je veux dire que les gens n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps pour goûter, ils n'ont plus le temps pour s'arrêter, ils n'ont plus le temps pour penser, ils n'ont plus le temps pour vivre et goûter. On est dans le siècle de la quantité et on a oublié la qualité. Alors on finit par s'ennuyer parce que si vous n'avez plus votre dose de crash ou de tout ce que vous voudrez, parce que c'est ça, si vous n'avez plus votre dose de drogue, d'aventure, ben le jour où ça va s'arrêter, mais c'est la dépression, c'est la chute libre, c'est la descente de 5000 mètres sans parachute, Non mais c'est terrible. Et on comprend qu'il y a des gens qui se cassent. Qu'il y a des gens qui arrivent au sol, ils sont morts. C'est terrible. Et je dis bien qu'il y a des aventures qui se terminent bien et des aventures qui se terminent mal. Je prends un exemple. Si vous avez le projet de faire du trekking dans l'Himalaya, ce qui vous arrive assez souvent d'ailleurs, je suppose. Avant de partir, j'y connais rien. Mais quand même, faites quelques petites vérifications. Parce qu'elles s'imposent pour une telle expédition, même si c'est de courte durée. Et cela, de toute aventure, je parle sportive, requiert souvent des jours, parfois des études, de compulser des livres, des jours, voire davantage d'entraînement, de préparation, parce qu'impulsion et coup de cœur ne pardonnent pas. On risque de dévisser, vous savez ce que c'est en termes d'alpinisme, dévisser. Passion, et amour vont de pair, hein, à moins qu'il y ait ce qu'il faut au milieu. La parole de Dieu nous fournit un terrain de réflexion sur lequel j'arrive maintenant, un terrain de réflexion idéal pour apprécier la valeur d'une aventure, c'est celle du couple, c'est-à-dire la vie à deux, le vivre ensemble. Alors on va tourner une page de notre Bible. C'est pas moi qui l'ai inventé l'idée, hein. C'est le Seigneur qui nous la donne. C'est dans la parole, c'est Paul. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. Eh, vous connaissez, vous êtes des biblistes. Alors, 2 Corinthiens 11, et Paul écrit ceci. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie !» Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que, c'est beau, hein, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je souligne, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est pas beau ça? Sans problème. Enfin, bon. Chacun sait que la vie conjugale est faite d'un émoi initial. Messieurs, vous en souvenez? La première fois que vous avez rencontré madame, qui était encore une demoiselle. Bon, vous n'avez pas l'air de vous en souvenir beaucoup. Hein. Il va falloir faire un séminaire de couple. Non, non, mais c'est quelque chose. Bah oui. Eh oui, alors. C'est quelque chose de fort. On la voit et on dit c'est elle. Elle nous voit, elle nous dit c'est lui. Forcément. C'est puissant. Ah oui, parce que c'est ce qui va faire le mariage, c'est ce qui va faire la vie. Hein. On ne se marie pas 36 fois, hein, quoi que. C'est puissant, c'est fondateur. Et ensuite, il y a dans la vie, il y a des temps forts où nous retrouvons ces moments. Mais il y a aussi des temps de monotonie, où il y a parfois des temps de questionnement et de désir personnel. Et il ne faut pas se confondre, le mariage, c'est un duo, c'est pas un duel. Hein. On ne se trompe pas. Mais on vérifie les choses à la solidité. Là encore, c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure, à sa durée. Son renouvellement indispensable se repose sur un socle immuable, c'est l'amour. Ça a commencé par l'amour, ça continue dans l'amour, et ça doit perdurer jusqu'à la fin dans l'amour. Et ça, c'est l'aventure. Parce que quand on entend ce que nous entendons et ce que nous voyons, c'est que finalement, quand ça ne marche plus, on va chercher l'aventure ailleurs. Alors que l'aventure, elle est dedans. C'est comme pour tout le reste, hein. L'amour, socle. Il y a des couples, hélas, qui s'ennuient ensemble. Ils vivent en parfait célibataire alors qu'ils sont tous les deux. Ce sont des duos bien réglés, ils sont rangés, ils sont figés, mais ils sont désabusés de l'un de l'autre, même du concept du mariage. C'est triste. Ça pourrait être expliqué de cette manière, c'est la belle aventure du voilier naviguant sur une mer d'huile où il n'y a plus aucun souffle de vent dans les voiles. Frères et sœurs, je crois que nous avons vraiment besoin d'être renouvelés les uns et les autres, même dans le domaine du couple. Et s'il y a des couples qui passent des moments difficiles, moi je voudrais vous encourager. Le Seigneur est capable de faire souffler le vent dans vos vies spirituelles, j'entends, mais aussi dans votre vie de couple. Et de vous donner de pouvoir vous retrouver, de vous aimer, comme le premier jour. Et je dirais que ce sera encore plus fort que le premier jour, parce que le premier jour, ce sont des émois, c'est une découverte. Ben oui, naturellement, ça se comprend. Mais à la fin, c'est beaucoup plus fort encore. Ouais, ça c'est vraiment fondé, ça s'est enraciné, les racines se sont faites. Hein. C'est ça. Hein. Cependant, prenons garde au réveil, quand il y a parfois ce genre de défaut, où l'on passe vite de l'ennui à l'aventure la plus folle. Et c'est une menace, c'est un danger, pour tous. Allez, n'ayons pas peur, hein. Il n'y a pas les super saints, les super spirituels, tout le monde peut passer par des moments de... où véritablement, eh bien, on peut chuter. Ouais, ouais. Et ne nous croyons pas trop forts. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, hein. Connaissez, hein. Alors, soyons modestes. Soyons humbles de ce côté-là. Et on passe très vite de l'aventure à de l'ennui à l'aventure la plus folle. Or, en la matière, comme dans bien d'autres domaines, gardons-nous d'oublier cette parole régénératrice qui nous est donnée dans l'épître de Paul aux Romains, et je la cite à nouveau dans ce domaine et dans ce caractère. Il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, qui est un siècle de destruction, de faux exemples, d'illusions. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une chose que nous avons besoin, c'est d'être renouvelés, ressouclés et recyclés en permanence dans tous les domaines de notre vie, y compris aussi celui de notre couple. Mes frères et sœurs qui êtes épuisés, retrouvez-vous ensemble, prenez des vacances quelques jours ou un week-end. Ben oui. Parce que la vie nous mange, elle nous ronge, elle nous détruit, elle est comme la teigne, elle nous absorbe complètement. Ouais. Tenez-vous devant le Seigneur et qu'il envoie un nouveau souffle. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur veut sauver votre vie, il veut sauver votre couple, il veut sauver votre famille, et après vous pourrez reprendre le travail pour sauver les autres. Parce que si vous n'avez plus de couple, si vous n'avez plus de famille, à quoi ça servira à quoi d'aller dire aux autres, eh bien, moi j'ai découvert Jésus, il a fait des choses extraordinaires pour moi, et puis voilà, quel témoignage. Seigneur, la puissance régénératrice, soyez renouvelés dans l'esprit de votre analyse, dans votre entendement profond, y compris notre cœur, nos sentiments, notre affect. Puissance de renouvellement par l'Esprit de Dieu en nous. Comment s'extraire? Comment casser? Comment bouleverser cette inertie, cette torpeur de la vie ordinaire, routinière? Ce qu'on appelle communément dans notre langue le train-train qui tue. Mais pas n'importe comment. Et surtout pas en faisant n'importe quoi. Parce que d'un réveil, on peut déclencher une véritable révolution. Aux conséquences désastreuses pour celui, pour celle, pour ceux qui ont été abandonnés, trahis et délaissés. C'est terrible. Et avec le Seigneur, je dirais que c'est lui qui va piloter les choses, qui va conduire les choses. Quand on lui dit « Je te donne ma vie, Seigneur », on lui a dit, on lui redit encore. Eh bien, c'est parce que Dieu veut s'impliquer dans tous les domaines. Et il sait très bien que parfois nous pouvons passer par des moments d'ennui. Dans l'ennui professionnel, il y a des gens qui font ça toute leur vie, c'est terrible, hein. Et puis dans l'ennui de notre couple, dans l'ennui de notre famille, dans l'ennui de ceci, dans l'ennui de l'Église, dans l'ennui de chanter les mêmes cantiques, de voir le même pasteur. Un jour, vous ne me verrez plus. Il faudra vous habituer parce que, hein, voilà. Je voudrais vous dire que je suis éternel, mais pas ici. Eh, on se reverra là-haut. Ça sera bien. Merci Seigneur. Alors, en fait, je termine, hein, je finis maintenant. En fait... L'Église, comme le couple, ou une famille, ou le couple, comme l'Église, c'est une famille, où seul l'amour est capable d'imaginer, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, d'imaginer un renouveau possible, et préserver des dérapages aventureux qui blessent, qui séparent et qui désunissent. Et c'est un effort, en ce qui nous concerne, de vouloir. Le mot est dit, de vouloir. Je le répète, vous allez dire que vraiment je deviens vieux, mais je vous l'ai dit, vous l'avez déjà entendu, le sentiment amoureux, être amoureux c'est un sentiment, mais aimer c'est une volonté. Je m'en souvenais plus tellement je l'ai répété, dites donc. Seigneur, aide-moi à aimer. Je peux dire que j'aime Dieu, mais si j'aime plus la personne qui est à côté de moi, si j'aime plus mes frères, mes sœurs, si j'aime plus ceci et cela, que le Seigneur m'a demandé d'aimer, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je suis? Un escargot et avec la coquille vide? Excusez-moi l'expression, mais C'est vrai, vide, vide. On ne veut pas être l'ombre de nous-mêmes. On veut être vraiment rempli du Seigneur pour faire du bien et glorifier son nom. Alors c'est un effort à vouloir, et cet effort à vouloir sera toujours nécessaire. Ça sera un effort d'entretien, un effort où il faudra peut-être remettre la pierre sur le mur. Effort à aimer. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit ceci, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ouais. Abandonner ton premier amour. Seigneur, donne-moi d'aimer encore. C'est pas facile. Hein? C'est pas simple. Parce que la vie est là pour nous séparer. La vie est là pour nous préoccuper, pour nous absorber, pour nous détruire. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Alors, je termine. Écoutons ce que Paul nous dit. Je vous ai fiancé à Dieu, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et à ce moment-là, si nous l'avons compris avec la grâce de Dieu, la parole que nous avons ouverte, le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui va nous renouveler, qui va faire une œuvre en nous, eh bien, nous pourrons nous approcher de Dieu, comme Paul, dans les derniers moments de sa vie, on pourra dire, « Mais Seigneur, je ne me suis jamais lassé de toi et de ceux et de celles que tu m'as donnés pour parcourir ce chemin de l'existence. » Ouais, Seigneur, aimer, aimer, aimer encore. Et là, c'est pas humain, c'est divin. Ça vient du Seigneur, ça vient d'en haut. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alors, vous n'allez pas vous ennuyer, hein? Non, on ne va pas s'ennuyer. Parce que le Seigneur nous a donné la clé, il nous a donné le secret. Et on va lui dire que vraiment dans sa présence, c'est un bonheur, c'est un renouvellement, c'est un émerveillement. Que Dieu nous bénisse, nous allons en prier. Simplement, je vais demander à Michel, s'il te plaît, brièvement, de bien vouloir prier pour l'Église, prier pour les couples, prier pour les familles, prier pour nos Églises aussi, dans notre contexte. Nous avons besoin du souffle de Dieu.